Esprit libre avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
Et avec Franz-Olivier Gisbert, j'ai à la fois un journaliste, un éditorialiste et aussi un auteur, le Figaro littéraire. Elle a fait une grande enquête et montre que les écrivains comme vous, Franz, et les éditeurs sont toujours habités par la nostalgie de Bernard Pivot. D'après ce qui est devenu après Bouillon de Culture, Bernard, d'une certaine manière, revient donc, dit le Figaro.
Tout le temps. Faut qu'il soit là, c'est pas possible. Ouais. On n'en peut plus.
Pourtant,
l'acculturation, la déculturation. Oui, mais moi je suis arrivé après, quand il était parti, et je regardais, j'étais un fan, évidemment.
Le vieux monde, puisque tout à l'heure nous avons parlé justement des plateformes, de la situation internationale avec Thierry Breton, mais le vieux monde en France continue à s'agiter sérieusement, et notamment du côté de la NUPES et des LFI, des déclarations de Mélenchon, des déclarations de Madame Hidalgo qui sont assez particulières. Alors commençons par Mélenchon. À quoi joue-t-il ?
Mélenchon, je ne sais pas trop à quoi il joue, parce qu'on se demande quelles sont ses intentions, parce que pour l'instant, l'image qu'il donne, c'est celle d'un croque-mitaine. C'est le grand babaou, comme on dit à Marseille. Vous savez, le babaou, c'est l'ogre qui mange les enfants méchants. Et à côté de Poutine, il fait quand même figure de petit bras, mais quand on regarde quand même son discours, regardez, nous sommes en train de sortir du cadre démocratique. Ah bon ? Ah bon, parce que lui, il sait ce que c'est la démocratie, celui qui vante sans cesse la Russie, la Chine, le Venezuela, enfin tous les pouvoirs forts en fait, parce qu'il adore ça. Et puis, faut pas oublier que comment fonctionne le LFI. Hein, c'est-à-dire Manuel Bompard, le chef, il a quand même été nommé par la grâce du Saint-Esprit, par le grand chef. Le vote n'est pas nécessairement l'alpha et l'oméga de la démocratie. C'est ce qu'a déclaré Bompard, vous vous souvenez ? Vous êtes prévenu. C'est-à-dire, en fait, à LFI, c'est un peu différent de ce qui peut se passer ailleurs dans une démocratie, c'est qu'on nomme par consensus, c'est ce qu'il avait expliqué Bompard. Un peu comme au temps de Staline, vous voyez, c'est une sorte de consensus. Puis il avait expliqué d'ailleurs la démocratie.
Les élus sont quand même en tête au sondage pour les élections européennes du mois de juin.
Oui, mais enfin, ça n'empêche pas, ça. Non, mais ça en dit long sur la France.
C'est-à-dire que la France voudrait quoi ? Une sorte d'union de la gauche et lui...
Ouais, enfin bon... La France aujourd'hui, on ne sait pas très bien où elle est, on ne sait pas très bien où elle habite. Je pense qu'on va laisser tout ça se poser. Bon, après cette affaire des retraites, et puis peut-être qu'on saura un peu mieux ce qu'elle pense. Mais enfin, c'est vrai que tout le temps, vous avez tout à fait raison. Et il y a une sorte de délire général. Et là, vous parliez tout à l'heure d'Hidalgo, et d'Hidalgo, elle est dans le même truc. Comment voulez-vous que les Français accordent le moins de crédit à notre classe politique quand elle profère des inepties comme celle qu'on a entendue dans sa bouche, la maire de Paris, au micro de France Inter, hein ? Parce que vous êtes déçu par Macron, la meilleure façon de devenir macroniste, c'est d'écouter Hidalgo. Écoutez, la démocratie est complètement inexistante en France, ah bon ? La démocratie est en train de s'effondrer en France, ah bon ? Et puis alors surtout, elle dénonce un système, je cite, ultra-libéral et néolibéral, je mets des guillemets, c'est pas bien ça, le libéralisme, comme vous le savez, c'est jamais bon, que supporte le gouvernement. Mais désolé, Madame le maire, ces clichés sentent la naphtaline depuis longtemps, mais je dirais même le faisandé, il faut remettre vos montres à l'heure et puis cesser d'écouter les économistes marxistes à la ramasse qui critiquent un libéralisme qui n'existe que dans leur imagination. Il faut retourner au CP et vous apprendrez que la France est un État centralisé, avec beaucoup de fonctionnaires, beaucoup d'impôts, comme la ville de Paris d'ailleurs, où il y a à peu près, je crois, deux fois et demi plus d'employés municipaux qu'à Londres.
Et les dépenses publiques qui sont et les dépenses publiques que vous avez chiffrées, qui sont au-delà, largement au-delà des 50%.
58,1%. Les dépenses publiques représentent 58,1% de la richesse nationale et on serait un pays libéral. Non, mais on se moque des gens. Et là, les Français, vous voyez, ils écoutent. Et parfois, d'ailleurs, ils répètent. Mais... Donc, je pense qu'il y a un travail de pédagogie à faire. Il y a une classe politique qui devrait quand même retrousser ses manches et parler aux Français, n'est-ce pas, monsieur Macron ?
Justement, c'est la question que je voulais vous poser parce que c'est l'expérience qui vous porte. Ça fait quand même des années que vous êtes journaliste politique. Dans cette affaire-là, il y a de l'idéologie et une nostalgie que vous venez d'évoquer qui rôde. Ou alors, c'est parce que, on pourrait prendre l'exemple de Pape Ndiaye, est-ce que c'est derrière le maire et quelques autres, l'inexpérience du gouvernement Macron qui est telle que, de toute façon, le débat politique, il n'existe pas. Parce que finalement, il y a Macron, deux ministres, et le reste, ils sont totalement... C'est-à-dire le maire, peut-être Darmanin, peut-être Attal.
Oui, on peut dire ces deux-là, oui, les trois.
Et les autres, autres sont pédagogiquement inexistants complètement.
Bah pédagogiquement, ce sont des technocrates. Ils savent pas, ils n'ont jamais fait de politique de leur vie. Le pauvre Pam Ndiaye, vous avez bien vu. Bon, il a réussi à choquer la famille du petit Lindsay. Enfin, il a pas fait preuve visiblement de la moindre empathie. Heureusement que Brigitte Macron est allée rapporter les choses. Mais a repris les choses en main. Mais bon, ça c'est le problème. Je crois que la France aujourd'hui, je parlais tout à l'heure d'espèce de je m'en foutisme. De Gaulle appelait ça l'avachissement. Mais je crois que c'est ce qu'on vit, c'est-à-dire une classe politique qui est hors sol, qui est technocratique, avec des représentants de la société civile comme Pam Ndiaye qui ne savent pas du tout ce que c'est de la politique et ce qu'est la politique. Et de l'autre côté, quand je parlais d'avachissement, ce qui était incroyable, par exemple l'histoire de Carnac, c'est extraordinaire. Hein, ce sont des
Carnac, la ville.
Oui, Carnac, dans le Morbihan, ouais. En Bretagne. Ville magnifique ville. Que j'adore. Donc, il y a une partie du site de Menhir, qui est classée à l'UNESCO quand même, qui a été détruit pour construire un monsieur bricolage. 39 menhirs. Bon, ça en dit long sur la France. Tout le monde s'en fout. Tout le monde laisse faire. Il n'y a pas de lanceur d'alerte.
Je crois que les gens ne sont pas vraiment au courant.
Attendez.
On en parle à l'école, des menhirs de Carnac.
Les gens ne sont pas au courant, mais enfin, ils ont bien vu les menhirs en train de disparaître. Enfin,
à Carnac. Mais la plupart des auditeurs de radio classique l'apprennent grâce à vous.
Voilà. Mais je dis justement qu'à Carnac, tout le monde s'en fout. Ça en dit long sur la France. Qu'est-ce que faisaient les écologistes? Il paraît qu'il y a des écologistes un peu partout en France, ils devaient être en train de manifester pour la retraite contre la retraite à 64 ans. C'est-à-dire, c'est ça le problème de la France aujourd'hui. C'est-à-dire, on a, disons, un pouvoir un peu hors sol, comme on vient de le dire. Mmh. Et du coup, la France s'est un peu déconnectée. Et c'est pour ça que la NUPES fait des ravages dans les sondages. Mmh. Mais ça m'étonnerait que ça se voit dans les urnes.
Mmh. Est-ce que vous considérez que la responsabilité vient justement d'une mauvaise gestion de son équipe par le président de la République ou justement d'une démagogie de l'autre côté, parce que
moi, je pense pas que c'est
ça a toujours été un dialogue. C'est-à-dire que là, c'est un face-à-face, et vous nous expliquez que finalement, les gens croient des choses qui ne sont pas vraies, et que de l'autre côté, finalement, le président de la République
coup, les gens s'en foutent.
Et les présidents de la République, il y a une équipe qui n'est pas au niveau. Donc,
oui, mais c'est pas une mauvaise gestion, parce qu'il faut changer d'équipe. Mais c'est évident, ce ne sont pas les personnes appropriées.
C'est ce que disait Barbier l'autre jour.
Ah non, mais il a absolument raison.
C'est urgent, disait-il.
Pour une fois, je suis d'accord avec lui, mais non, mais évidemment. Mais ça a toujours été un peu le cas, c'est le problème du macronisme, c'est-à-dire, on prend des cloches. Et puis, voilà, et de temps en temps, d'ailleurs, il y a des gens brillants, ces gens brillants, on les apprécie pas toujours. Mais en politique, il faut prendre des gens intelligents, brillants, qui parlent aux gens. Et ces gens-là, ça se trouve pas si facilement. Mmh. Et si vous voulez, il y en a quand même aujourd'hui dans la politique. Et ces gens-là, on devrait les voir aujourd'hui au gouvernement. Parler au peuple. Parce que vous voyez très bien que les Français, ils s'en vont, ils sont ailleurs, ils n'écoutent plus. C'est très étrange aujourd'hui le spectacle du paysage politique français quand même. Il y a quelque chose qui cloche. Donc et là, il y a quand même encore, pour Macron, près de 4 ans à tirer. Donc il faut se réveiller.
Il faut toujours qu'il y ait une chute. Quel est votre meilleur souvenir de pivot, célébré par le Figaro ce matin?
Écoutez, il y en a tellement. Non, il y a un souvenir. Non, je vais vous dire, moi, j'ai souvent été chez Pivot, comme vous. Et je sortais un livre. Et je me souviens que, je crois que c'est l'émission avant laquelle j'avais le plus le trac. Et j'avais un truc de très particulier, c'est que j'avais les lèvres qui tremblaient. Et brusquement, dès que les lumières s'allumaient sur le plateau, dès que l'émission commençait, ça s'arrêtait. Mais c'était effrayant. C'était effrayant. J'avais les lèvres. Et c'est la seule émission qui m'a jamais fait ça.
Voilà,
donc c'était le bac. C'était je sais pas quoi. C'était un concours. Et je pense qu'on avait tous peur, les auteurs. Et c'est vrai qu'alors là, après évidemment, Nabokov, Solzhenitsyn. Enfin, c'était extraordinaire. Et moi, je veux pas juste rester sur Bukowski. Je pense que, notamment Solzhenitsyn, la majesté de Solzhenitsyn devant les petits roquets là qui lui aboyaient dessus, c'était extraordinaire, c'était des grands moments de télévision, mais qu'est-ce qu'on en a eu? Vous vous souvenez quand même, le vendredi, c'était ah bah non, on peut pas dîner. On a pivot, il y a pivot. On passera après, ou voilà, c'était toujours un peu comme ça.
Il est 9h sur l'antenne de Radio Classique, Franz-Olivier Gisbert, donc nous souhaitons la vie la plus longue possible à Bernard Pivot, qui nous écoute peut-être le matin.
Reviens, Bernard.
Nous avons rendez-vous avec Augustin Lefebvre et avec Franck Ferrand. Vous êtes sur l'antenne de Radio Classique.